Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien
Aygouin. Salut à tous, le Super Moscato Show vous accompagne pendant vos vacances. Alors c'est un, là on est non seulement en vacances mais presque en week-end.
Oui, salut Pierrot. Bon, alors là c'est Adrien. Bon courage à tous les gens qui sont en voiture parce qu'il y a des départs en vacances le 5.
Vendredi 5 août, je pense que le nombre d'apéros en France est l'un des plus élevés de l'année.
Je crois que c'est les départs du bureau le plus tôt. C'est-à-dire que tu pars du bureau, il est midi 30. Tu dis je reviens et je reviens pas. Voilà, c'est parce comme ça.
C'est simple, hein. Ceux qui partent en août sont déjà partis.
Oui.
Ceux qui sont en juillet sont déjà revenus. Donc il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de tout ça, donc on boit des coups. Et vous avez bien raison, toujours avec modération et en écoutant le Moscato Show. Au programme aujourd'hui, reverra-t-on le grand Paul Pogba en équipe de France? On est un peu inquiet pour Polo, la pioche.
Ah, il va revenir. Pioche, hein. Il est là, la pioche. Et puis en plus, avec un nouveau club, un nouveau projet, ça va le faire à la Coupe du Monde. Bravo, Polo.
Et puis, alors, un débat incroyable qu'on pensait ne jamais faire, mais le rugby nous l'a offert. Les franchises sud-africaines en Coupe d'Europe, est-ce que vous trouvez ça génial ou ridicule? Et puis, alors, un débat que vous allez écouter avec du recul. Nous avons débattu de savoir si Christophe Galtier était un bon choix pour entraîner le PSG. Donc maintenant qu'on connaît l'entraîneur, vous allez réécouter ce débat et vous allez voir que certains ont peut-être vu juste dans cette histoire.
Certains avaient 100% raison, d'autres 100% tort. Et c'est ça qui est bon, parce qu'on va en parler à la rentrée dans Moscato Show.
Qu'est-ce qu'on a dans l'apostrophe, Adrien?
Dans l'apostrophe, alors ce qui est génial chez Vincent, c'est que dans les médias, il y a une sorte de totem intouchable. Genre Michel Drucker ou Patrick Sébastien. Ben Vincent, lui, il peut se permettre de les allumer en direct à la radio. C'est pour ça qu'on aime Vincent.
Et je pense que c'est la seule émission en France où on peut défoncer Patrick Sébastien ou Michel Drucker gratuitement.
En toute gentillesse, hein.
En toute bienveillance, Michel, ne t'inquiète pas.
Formidable.
Allez, tout de suite, nous allons reparler de Roland-Garros. Oui, parce qu'à Roland-Garros, les fameuses Night Sessions ont beaucoup fait parler, ont fait polémique pour certaines. Alors, à la fin, est-ce que le bilan est réussi ou pas? C'était le jeudi 2 juin sur RMC.
RMC, le Super Moscato Show.
Service après-vente, bonjour.
Dido ?
Oui.
Tu viens bien sur René ?
Ben non, je peux pas en ce moment.
Mais t'es doré !
20h45, un horaire qui divise aussi bien les fans de tennis que les joueurs eux-mêmes.
Chacun son avis sur les sessions nocturnes, mais pour moi, elles démarrent trop tard.
Attaque de Nadal, c'est fini ! Accélération de Robert !
Beaucoup d'émotions, c'est unforgettable.
À la fin, c'est une question de business et nous comprenons.
Attends, vous parlez que d'oseille, parce que vous aimez l'oseille, ça, je le sais.
Alors, j'ai pas fait la soirée hier. On a fait une contre-soirée Roland-Garros.
J'ai jamais été aussi fort que maintenant sur un coup de tennis. Breaking
news. On accueille Amandine Hess et Anthony Reich. Bonjour, messieurs, dames.
Salut à tous. Mais
vous venez plus en soirée, vous deux.
Oui. Ah, de temps en temps.
Okay. Amandine, elle a échappé au combat de terre sur, au tournoi de Marseille. Du coup, hein, grâce à la.
Elle est revenue. Et en plus, je suis sur l'affiche du tournoi de Marseille. Hein.
Ah, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas vu.
On va démarrer par ce gros débat parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. C'était la dernière Night Session hier à Roland-Garros. Le bilan est-il bon ou pas? Réussite ou fiasco? Il y a beaucoup de choses à dire économiquement, sportivement, mais surtout du point de vue des spectateurs qui apparemment sont les moins bien servis dans cette histoire, Anthony. Les retours sont pas unanimes, hein, sur ces Night Sessions.
Oui, c'est clair. Alors, déjà, rappelons le cadre de ces sessions nocturnes. Le match programmé doit être l'affiche du jour. Évidemment, cela fait l'objet de beaucoup de tractations entre les diffuseurs et la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, pour décider quel match doit être programmé le soir. La rencontre commence à 21h, plus tard que dans les autres grands chelems, ce qui pose évidemment un problème logistique. Vous l'avez vu lors du quart de finale Nadal-Djokovic, dès qu'il y a un match marathon, eh bien les spectateurs, soit ils quittent le court avant la fin du match pour rentrer chez eux pour avoir le dernier métro, soit ils sont en panne de métro et donc ils doivent courir après les taxis. Ensuite, il y a un gros hic, c'est la répartition homme-femme. Un seul match féminin programmé sur les 10 Night Sessions. C'était le fameux match Alizé Cornet-Yelena Ostapenko. Et puis l'aspect budget, gros hic là aussi, puisque pour le match Nadal-Djokovic, un spectateur situé dans la partie supérieure des tribunes payait une centaine d'euros, soit quasiment autant qu'un billet pour toute la journée sur la même place. Amélie Mauresmo, directrice de Roland-Garros, l'a admis hier en conférence de presse, il y a encore beaucoup de travail.
On va se poser tranquillement. Je crois que là, en milieu de tournoi, c'est vraiment pas le moment de parler de ça. On sait, on a bien conscience que tout n'est pas parfait. C'est la première fois qu'on fait ces sessions de soirée avec du public. Voilà, c'est un peu tôt pour vous dire déjà, on va essayer de changer ça ou ça. On fera le point tranquillement, à la tête reposée, un peu à froid aussi. C'est toujours bien d'avoir un peu de recul. Et puis, on en reparlera le moment venu.
Et puis enfin, sur le plan sportif, on a eu le show Alcaraz en début de tournoi avec deux sessions nocturnes et puis évidemment ce choc Rafael Nadal Novak Djokovic. Mais pour les autres soirées, eh bien les rencontres n'ont pas été très marquantes, ce qui renforce le problème d'avoir un seul match par soir, contrairement là aussi aux autres grands chelems.
D'autant que il y a eu même un raté complet avec Alizé Cornet au Ostapenko. Je crois que tu as ta place, Stephen.
Oui, exactement. Match.
Tu t'es régalé. Hein.
240 euros pour deux places pour voir un 6-0, un 6-3. Donc je trouvais ça un petit peu expensive, si vous permettez.
Vincent, tu trouves ça plutôt bien ou je trouve ça bien, renouveler
ça finit trop tard, le problème est là. Ouais. Même pour nous, si tu peux pas suivre, moi à 11h, je suis pas sûr à fait. Quoi. Mais non, mais 1h30, le mec il a 4h. Non, mais alors, si tu me dis ça finit à 4h du matin, bon, mais alors là,
non, mais le match de l'autre soir, ça aurait pu. Hein.
C'est trop dur, c'est trop dur. C'est ça finit trop. Alors, je parle même pas des mecs qui sont sur place, parce que pour rentrer, c'est vrai que pour certains, pour le métro, tout ça, ça doit être un problème incroyable. Ça, ils pourraient rajouter, ils pourraient trouver un truc, rajouter, mettons, des métros. T'es à Paris, t'es pas à Tombouctou, quand même. Tu peux arriver avec la mairie de Paris à rajouter des transports en commun.
Tout à fait.
Mais enfin, c'est quand même problématique. Ça finit trop tard, même pour la télé. C'est quand même trop dur. Le problème du tennis, c'est que tu sais pas quand ça finit. Ça peut durer une heure, ça peut durer 5 heures, 6 heures, 7 heures. On a même vu des matchs en 10 heures. Donc là, le matin, tu le match. Tu à 6 heures du matin,
tu reviens prendre ta douche,
tu vas au boulot. Tu vas au boulot, qu'est-ce que t'as fait? Je sors du match.
T'es à
Roland Garros. Non, mais c'est ça qui est un peu dur. Je pense qu'il faut qu'ils disent, bon, mais voilà, 23 heures, on boucle comme à Wimbledon. On boucle, bonsoir Clara. Il faut qu'au niveau des prix, bon, je comprends qu'il y a de plus en plus d'économies, que ça coûte de plus en plus cher. Tous les sports sont comme ça.
Parce que j'ai pas l'impression que ça va gêner de rentrer à 6 heures du matin, ce garçon. C'est nouveau, ça, c'est devenu une vieille anglaise.
C'est dingue, mais ça descend de plus en plus. Écoutez-moi, c'est comme le reste. Écoute, je vais te dire, c'est compliqué, mais il faut qu'ils arrivent à comment te dire, l'harmonie entre le financier aussi. Tu peux pas passer d'un mec qui avait le droit de rester toute la journée là à qu'un match, quoi. C'est dur. Il faut qu'il y ait des étapes.
Faut baisser les prix.
Après, je critiquerai pas Mauresmo. Oui, mais après, il faut baisser les prix. Le problème, c'est que je pense que tout coûte très cher.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, l'arnaque, elle est quand même sur le prix du billet journée qui n'a pas baissé alors qu'il y a un match en moins et le niveau du billet du soir.
Ça va dans la poche. La Fédé.
Oui, ouais, qui après gère et fournit Roland Garros, qui produit Roland Garros. Voilà.
C'est-à-dire, c'est eux qui payent les joueurs, tout ça. Quoi.
C'est possible que vous n'ayez pas pensé à ça au rugby, ça, d'enlever des matchs et de faire payer plus cher.
Ça va arriver un jour, ça va arriver.
Bah, tu sais, ça, c'est un peu partout pareil, j'ai l'impression quand même. Le sport devient de plus en plus cher dans tous les sports confondus. Écoute, faisons confiance à Amélie Mauresmo, c'est une fille qui a la tête sur les épaules, elle va. Mais là, pour l'instant, ça, ouais, c'est pas satisfaisant.
Elle le dit, c'est pas moyen. Parfait. Amandine, qu'est-ce que t'en as pensé?
C'est moyen.
Bah moi, je suis un petit peu mitigée aussi, c'est qu'il y a plus de désavantages qu'avantages, notamment le froid, parce que à l'Open d'Australie et à l'US Open, il y a les night sessions, sauf qu'il fait 30 degrés, alors qu'ici, on voyait tous les gens avec les plaids dans les tribunes. Pour les joueurs, ça change énormément aussi. Les conditions sont vraiment pas les mêmes, que ça soit en journée ou en soirée. Il y a le problème des transports aussi, comme vous l'avez évoqué. Il y a le problème de la récupération pour les joueurs, où quand tu termines à 3h du matin, on sait très bien que tu dors pas avant 5h du matin. Le même tarif pour un seul match, ça me paraît assez compliqué. Et du coup, pour le tennis féminin, c'est une catastrophe, parce que forcément, ils vont pas privilégier un tournoi, oui, un match féminin où tu as le risque que ça dure seulement une heure. Alors que les autres ont payé le même prix pour voir trois matchs qui ont duré plusieurs heures. Donc c'est un peu compliqué d'un autre côté.
Tu pourrais avoir pour le prix d'un homme, avoir d'un match d'homme, trois matchs féminins, tu vois.
Moi je pensais, pourquoi pas deux matchs féminins dans ce cas-là en soirée. Mais bon, le problème c'est que ça termine déjà tard.
Une bouteille de Ricard.
moi en fait, je suis plutôt pour qu'ils avancent peut-être la night session vers 45, 20 heures.
Il y a un exemple très parlant, c'est Bercy. C'est le tournoi de Bercy, qui est certes en indoor, mais la night, enfin, la session de soirée à Bercy pour le Masters en fin de saison démarre beaucoup plus tôt, à partir de 19h30, 20h. Et on a deux rencontres sur ce tournoi-là. Alors certes, c'est en 2-7 gagnants, mais il y a quand même un changement. Et alors là, une info qui vient tout juste de tomber, c'est mon compère Eric Salio qui me l'a transmet. Il y a Amélie Mauresmo qui vient de s'exprimer sur un média international de spécialisé dans le tennis. Et elle ouvre la voie à une programmation, notamment du night session, pour essayer d'équilibrer un peu plus avec un simple dame et un double.
D'accord. Simple dame et un double, ok.
Voilà.
Ouais, si c'est salut, on vérifiera.
Écoute, après, moi, je trouvais ça bien pour les gens qui travaillent en journée. Ça leur permet aussi de venir voir un match à Roland-Garros. Ouais. Et d'un autre côté,
les mecs qui regardent le tennis, ils bossent pas. Tu les vois, ils sont. Ça a l'air d'être des belles feignasses.
Moi, j'ai quand même l'impression que cette night session, elle a d'abord servi à remplir les caisses qui avaient été vidées par Covid pendant deux ans. Et à l'encontre de l'expérience du spectateur. Et le problème du tennis féminin, et je suis très content que ce soit une fille qui l'ait dit.
Amandine, en l'occurrence.
Amandine et Amélie Mauresmo aussi, qui ont dit qu'aujourd'hui, par le manque de hiérarchie chez les filles, le tennis masculin est plus attrayant pour le public. Et c'est pas moi qui le dis. C'est Amélie Mauresmo aussi aujourd'hui. On a vu, j'espère que Iga Swiatek pourra être celle-là. Mais si Serena Williams avait été à Roland-Garros, je pense que Serena Williams, on aurait pu l'avoir en night session. Elle aurait rempli le stade. Alors oui, il faut se calquer sur l'US Open et l'Open d'Australie. Il faut faire deux matchs en soirée. Il faut commencer à 19h. J'ose espérer que le toit qui est prévu sur le Suzanne Lenglen pour les Jeux Olympiques 2024,
ils vont le faire.
Les travaux ont commencé
tu t'as une bâche quand même. C'est quand même pas compliqué.
Il va y avoir un toit sur l'anglais, et donc il y aura possibilité d'avoir sur deux cours des night session. Maintenant, après
le pergolone de jour,
un Algeco, et après la programmation, malheureusement, tu peux pas prédire la qualité des matchs aujourd'hui sur la night session. T'as eu trois matchs intéressants. T'as eu Musetti Tsitsipas, t'as eu Djoko Nadal, et t'as eu hier Casper Ruud contre Holger Rune. Mais là, c'est dépendant. C'était l'après-midi, Cilic.
Non, il a joué face à Medvedev en night session.
Oui, ça a duré deux heures.
C'était le soir.
Hier, c'est contre Rublev. C'était la journée.
Hier c'était Rune.
Mais le problème c'est que Vincent, après l'émission, il s'endort.
Il s'endort l'après-midi,
il se lève, il voit Cilic, il dit oh c'est la nuit.
C'est la night session.
Alors moi que je suis soirée, mais autrement je suis à 9h sur le cadre.
Eric, c'est un peu.
Alors moi, écoute, d'abord, parce que le jour où vous avez parlé de ça, de la programmation du fameux Nadal Djoko avec le. Tout le monde attendait la décision et tout. Moi, j'ai trouvé qu'elle avait été extraordinaire, Amélie Mauresmo, parce que le laisser en night session, l'ouvrir gratuit, c'était franchement.
Moi, j'aime
les night sessions parce que nous, on a la chance de pouvoir travailler l'après-midi et si on a envie d'avoir des télé, puisqu'on a des télé devant nous dans le studio, on peut voir. Mais il y a plein de gens qui passe à côté c'est de Roland Garros parce qu'il bosse, quoi. C'est-à-dire que tu rentres à 8h le soir, eh ben, t'as rien vu.
Si t'es commercial, on voit toute ta journée, tu vois rien.
Et donc, voilà. Et donc, moi, je me suis régalé à regarder les matchs de Night Session parce que, je trouve que, voilà, c'est.
Comme ça tu, me fait tu bosses toute la ça journée au bureau.
Parce que je bosse toute la journée au bureau et que je finis à 20h, bureau, eh ben, ça me plaît. Oui, mon apéro, il finit à 20h.
Voilà. Donc, t'es l'équipe que je
non, mais moi, je trouve que c'est comme de se. Alors après, l'heure, je suis d'accord, il va falloir avancer parce que c'est pas possible
moi, de finir à 2h.
Parce que je vous l'ai pas dit parce que j'avais honte, mais je me suis endormi pendant le Djoko Nadal. Parce que à minuit et demi, du coup, mes yeux se sont
fermés. On a vu qu'il y avait plus de messages sur le groupe WhatsApp, Eric.
Je vais te dire, je suis pas le seul à m'être endormi parce qu'on s'est chauffé jusqu'à 2h du soir à coup de WhatsApp et du coup, plus personne ne répondait. J'ai pas été le seul à m'endormir. Il n'empêche que je trouve que c'est un peu comme quand tu auras un match de rugby le soir, un match de foot le soir, attendre l'heure pour voir ça correspond à ce que j'aime du sport, voilà. Et donc du coup harmoniser avec les horaires 19h, bien sûr, moi je suis d'accord, il faut que ça finisse un peu plus tôt. Après, il faut trouver le modèle économique aussi, en effet, de match double avec les nanas, parce que les nanas, il faut qu'elles jouent aussi le soir. Donc il y a mais moi je trouve que franchement il y a creusé là dedans parce que je trouve que c'est bien. Moi
après il y a le problème de locomotion, mais bon, problème de locomotion, tu fais comme Denise, ils ont qu'à vivre à Boulogne.
Ne t'inquiète pas, c'est le cas de la plupart des gens qui sont en Roland quand même.
Il n'y a pas que des points noirs. soir à cette station. La vraie satisfaction, c'est l'ambiance. Les gens, le soir, ils mettent le feu sur le cours Philippe Châtrier. Il y a un vrai engouement. Alors, parce qu'ils caillent peut-être, ils ont besoin de se réchauffer. Mais je trouve que l'ambiance du soir sur le Châtrier est quand même beaucoup plus chaude que la journée.
Après, Vincent, on en rigole. Mais le plus grand loupé, parce que, quand même, alors c'est pas de la faute de Mauresmo, parce qu'elle est arrivée en cours de route, Amélie Mauresmo. Ouais. Elle est arrivée il y a 8 mois. Ces gens-là, c'est une compétition mondiale. Un des premiers soucis quand on organise une compétition mondiale, ces gens-là, ils font 50 réunions par journée pour prévoir les choses. Non, c'est de prévoir les flux après l'événement. Que tu fasses un concert, une rencontre sportive.
Ça, c'est une erreur.
Elle a reconnu, et j'ai trouvé ça terrible, et c'est pas de sa faute. Hein. Elle a dit oui, mais en fait, on s'est pas donné les moyens encore d'accompagner les gens après l'événement.
C'est-à-dire que
si ça se termine à 1h30, eh ben les gens, il y a 15 000 personnes potentiellement qui sortent dans les rues de Paris, dans l'ouest parisien, qui sont livrés eux-mêmes. Ouais, impossible d'avoir un taxi.
Bon, après, ils peuvent aller au bois de Boulogne.
Vous savez quoi ? Même d'un point de vue de sécurité, d'un point de vue sécuritaire, je trouve ça nul. Parce que tu peux pas laisser dans.
Est-ce que tu veux une anecdote
sur la rue des gens à 15 000 personnes.
Tu veux une anecdote, Adrien ?
C'est pas possible. Vas-y.
Tout à l'heure, j'ai déjeuné à Roland Garros. On m'a confié. Donc j'étais avec. J'étais avec Henri Lecomte. Henri Lecomte. Henri Lecomte m'a confié qu'après le Nadal Djokovic, il a croisé à la sortie du parking Muriel Robin qui était restée jusqu'au bout et qui ne savait pas comment rentrer chez elle parce qu'aucun taxi voulait aller la chercher.
Mais voilà, mais tu vois, c'est ça.
Donc Muriel Robin a dit moi je veux bien faire l'addition.
Vincent, il est parti aussi à 1h30 pour aller chez lui à traverser le bois de Boulogne. Il s'est fait attaquer par un
comme s'il déguise façon Roland Garros, ils ont les boules fluo. Et donc je me dirige par rapport à ça dans le bois de Boulogne.
C'est fou. C'est comme si, pour le coup, il y a des choses qui à l'époque marchaient bien au Stade de France, c'était justement les retours du Stade de France en RER.
Qui
marchait, c'est comme si en 98 ils avaient inauguré.
Non, on les avait au Stade de France.
C'est comme si au Stade de France ils avaient inauguré le Stade de France il y a 25 ans en disant ah ben désolé, on n'a pas encore eu le temps de construire les stations RER, vous débrouillez. C'est pas possible.
Là, tu dois passer d'accord avec la mairie de Paris.
Non, mais la seule solution, c'est d'avancer l'horaire parce que tu ne peux pas laisser mobiliser tout le réseau de transport parisien pour un truc où tu ne sais pas à quelle heure ça se termine. Tu ne veux pas laisser tout pendant 15 jours les métros jusqu'à 2h30 du matin pour que ça serve une fois, ça coûte trop cher.
Ils ont instauré
la RATP parce qu'ils vont récupérer pendant 6 mois derrière.
On revient tout de suite avec Esteban Ocon, l'un des deux pilotes français en Formule 1, qui était notre invité au mois de mars. Et puis le débat sur l'équipe de France, reverra-t-on le grand Paul Pogba? Vous êtes sur RMC et c'est le Super Moscato Show jusqu'à 18h.
RMC, le meilleur du Super Moscato Show. RMC, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aygouin.
Le Super Moscato Show continue. Apostrophe arrive. Adrien, Michel Drucker va en prendre pour son grade, mais il n'est pas le seul.
Gentiment, parce que ce sont des amis de Vincent. Patrick Sébastien, il était le président de Vincent Moscato à Brive.
Je pense que ça énerve plus Patrick Sébastien que Michel Drucker. Parce qu'il va s'en foutre royalement, Michel.
Ah oui,
Mais Patrick, c'est quand Vincent se fout de lui.
Non, mais ça doit le faire rire. C'est comme Max Bozzini, quand Vincent est quand ses anciens présidents, ça les fait marrer.
Alors ça c'est Apostrophe et puis juste après le débat sur les franchises sud-africaines en Coupe d'Europe de rugby. D'abord nous allons réécouter l'interview d'Esteban Ocon, le pilote français de Formule 1 qui était notre invité le 17 mars.
RMC, le cri du cœur
du Super Moscato Show.
Le championnat du monde de F1 donc reprend dimanche à Bahreïn et nous sommes avec le pilote alpine Esteban Ocon en direct dans le Super Moscato Show. Salut Esteban.
Bonsoir à tout le monde.
Salut, bienvenue. Salut Esteban.
Esteban, vainqueur de son premier Grand Prix l'an dernier, c'était en Hongrie. Quelques mois après ça, Esteban, qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce qui reste de ce moment incroyable ?
Il en reste toujours beaucoup, bien sûr. On est très heureux d'avoir réussi à avoir ce résultat. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est en avoir plus de ces victoires, c'est clair. On a une nouvelle voiture maintenant, un nouveau moteur. Bien sûr, toutes les cartes seront redistribuées. Il y a encore beaucoup de travail, mais bien sûr, ce qu'on veut, c'est encore en faire plus.
Et toi,
est-ce que raisonnablement, tu peux l'envisager ? Parce que l'an dernier, tu l'as fait, et bravo à toi. Mais la Alpine, elle est quoi ? Elle est 4-5e dans la hiérarchie des machines. Est-ce que quand tu es à ce niveau-là, tu peux raisonnablement ambitionner de gagner des grands prix de manière régulière ?
Alors, l'année dernière, oui, c'est clair que c'était où on se situait cette année. On peut pas en être sûr encore. On a fait seulement que des essais à Barcelone et puis ici à Bahreïn. La hiérarchie, personne ne la connaît encore exactement. C'est clair qu'on pourra pas, je pense, être encore dans des positions de gagner des courses. Mais ce qu'on veut, c'est progresser. Même si on part dans des endroits où voilà, on fera des points au début. Ce qu'on veut, c'est progresser et puis se rapprocher des top teams.
Esteban, tu dis on, mais toi personnellement, nous, alors, par exemple, on a travaillé avec Patrick Tambay pendant de longues années. Il nous dit toujours, le jour où tu gagnes un Grand Prix de Formule 1, ta vie change. Quand tu es pilote, ce n'est plus la même. Est-ce que tu as ressenti ça, toi, au niveau perso?
Alors non, ce que je disais, c'est la vie, elle change d'une façon, oui. C'est clair que d'arriver à son rêve de déjà gagner un Grand Prix, c'est quelque chose d'énorme. Mais comme je l'ai dit, pour moi, je suis toujours voilà avec les mêmes personnes. Je travaille toujours avec la même équipe. Je vois toujours mes amis de la même façon. Ma vie personnelle n'a pas changé. C'est clair que ma vie professionnelle, probablement, elle a un petit peu changé. Dans le sens où on se dit que la façon dont on travaille, ça fonctionne et qu'il faut continuer.
Et sur la façon dont tu abordes les Grands Prix, ta confiance a été radicalement modifiée?
Alors, je me sens hyper bien dans l'équipe. Je sais que j'ai une grande confiance de la part des patrons, de la part du grand patron du groupe, Luca De Meo, et puis le patron de l'équipe, Laurent Rossi. Donc, la confiance, c'est quelque chose qui est hyper important et fin. C'est quelque chose qui a été difficile par le passé, voilà, pour moi. Mais je sais que je suis entre de bonnes mains maintenant et du coup je me sens hyper bien pour commencer cette saison.
Vincent, avec Esteban Ocon.
Oui, dis-moi, comment t'as ressenti l'an dernier, la saison dernière, entre Verstappen et Hamilton? Il y a eu quand même au niveau du grand public, il y a eu une confusion. Je ne sais pas si ce titre, il a été, bien sûr qu'il a été gagné par Verstappen, mais ça a généré quelque chose. Donne-moi ton point de vue là-dessus.
Ouais, c'est clair, c'était un truc de fou. Et puis j'étais un peu dans cette course et moi j'ai été une des voitures voilà qui a dépassé le safety car pour reprendre ma place. Donc j'étais entre Lewis et Max à ce moment-là. Donc non, c'est clair que ça a été un final énorme pour un titre à la fin. Donc c'est clair que c'était un gros show. Après voilà, bravo à Max d'avoir réussi à gagner.
À la régulière
titre.
Ou pas
Il le méritait, mais. Mais Lewis le méritait aussi. C'est clair que ça a été une belle bataille dans le dernier tour. Après, bah, c'est la compétition, il se passe des choses. Donc voilà, je pense que le meilleur l'a emporté à la fin.
Qui est favori pour toi là sur la saison qui démarre? Avec Hamilton avec son sentiment de revanche ou peut-être Verstappen qui a pris un ascendant psychologique?
C'est clair, ça va être encore chaud hein, cette année. On ne sait pas si la Red Bull et la Mercedes seront les voitures les plus rapides. Elles seront devant, ça c'est sûr. Mais on voit que les Ferrari sont aussi en forme en ce moment, tout simplement. Donc on verra au premier Grand Prix. Mais c'est clair que ça sera une bataille disputée jusqu'à la fin. Et puis on espère pas être trop loin, voilà, derrière pour pouvoir aussi grappiller des bonnes positions pour nous.
Esteban Ocon dans le Super Moscato Show. Denis a une question de spécialiste.
Oui, Sébastien, tu es dans la quatrième saison de Netflix, Drive to Survive. Quel est ton regard sur cette série de Netflix? Parce qu'elle a été un peu controversée, parce qu'il y en a qui n'ont pas participé. Mais est-ce que c'est une bonne pub pour la Formule 1?
Ouais, je pense que c'est très bien que Netflix ouvre comme ça la perspective de la F1 au grand public. C'est clair que c'est un show vraiment à l'américaine. Hein. Tout ce qu'on voit, c'est pas forcément toujours la réalité. Il y a beaucoup de scènes qui sont remises d'un Grand Prix à l'autre, et c'est pas forcément tout qui s'est passé sur une seule venue. Mais en tout cas, pour moi, ça m'a toujours bien servi. Comme je l'ai dit en 2019, quand j'avais plus de baquet, ça m'a remis entre guillemets en contention pour revenir. Avoir un baquet en 2020, donc non, c'est une bonne chose que Netflix nous fasse de la bonne publicité comme ça.
Allez, un dernier mot, Manu Amoros avec Esteban.
Oui, bonjour Esteban. Moi, je voulais savoir par rapport aux nouvelles règles. Aujourd'hui, les pneus sont de 18 pouces, alors que l'année dernière, c'était du 13 pouces. Pourquoi ce changement? C'est parce que les pneus se dégradent moins vite avec les 18 pouces?
Alors normalement, oui, ça devrait surchauffer beaucoup moins. Ouais. Ça, c'est ce que Pirelli essaie de faire maintenant avec ses nouveaux pneus. Et c'est aussi que il n'y a plus aucune voiture, honnêtement, qui est en 13 pouces ou très peu. C'est des anciennes voitures qui sont en 13 pouces. Toutes les voitures modernes sont en 17, 18 maintenant. Donc il a fallu évoluer de ce côté-là. avoir des nouvelles technologies comme on a avec ces nouveaux pneus de 18 pouces. Donc c'est intéressant et puis ça devrait aussi nous aider à se suivre de plus près. Donc on espère qu'il y aura encore plus de dépassements que les années précédentes.
Merci beaucoup Esteban.
Est-ce que jamais personne a pensé à mettre des refroidisseurs de pneus, c'est-à-dire des bonbonnes de gaz qui enverraient de l'air froid, de l'air gelé sur les pneus pendant la course?
Je pense que ça a déjà été pensé, mais je pense que c'est interdit malheureusement. Mais pourquoi pas? Il faudrait, hein. Ça serait bien.
Sinon, Vincent, avec ta petite bombe d'air frais comme ça, tu sors le bras du baquet, tu te mets un petit pshit sur les pouces.
Non mais Pierrot,
on va embaucher Vincent en tant qu'ingénieur.
Tu vas faire du
roncoulot. Ça m'est venu souvent ce genre de truc. Ça serait quand même simple à mettre des bonbons comme de l'air conditionné qui balancerait un gel froid, toi, mettons à 0 degré ou à, je sais
tu
pas
les
moi.
Aimes les bonbonnes de gaz, toi.
Esteban, merci beaucoup d'être venu dans le Super Moscato Show. Rendez-vous donc dimanche pour le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn.
Merci Esteban.
Et tout au long de la saison sur RMC, bien entendu. Merci à toi. Et Vincent, il s'y connaît, on pousse en taille de pneus de voiture.
C'est l'épaisseur.
Sur les sulky, c'est combien de pouces?
Quelqu'un qui pose une question technique.
Et Pierrot, il était, j'ai trouvé très bon notre invité du jour, Sébastien Ocon.
Oh, mais arrête, vous trompez, ça arrive.
Allez, on enchaîne tout de suite les meilleurs moments du Super Moscato Show avec Paul Pogba, l'un des artisans de la Coupe du Monde du titre mondial de 2018 qui peine à retrouver son niveau. Alors, va-t-on retrouver le grand Pogba, Vincent? En doute. Il règle le problème le 2 juin 2022 sur RMC.
Paul le Poulpe parade fièrement. La foule se presse, toujours plus nombreuse, toujours plus fascinée. Paul a encore eu raison hier soir, mais certains supporters lui en ont voulu.
Il a alterné le bon et le moins bon.
Paul a reçu des menaces de mort.
Les journalistes attendent beaucoup trop de lui.
Il doit mieux faire.
Je suis inquiet pour le Poulpe. Je suis en train de penser à lui envoyer une équipe de protection.
Pogba ! Les Poulpes possèdent 9 cerveaux qu'il faut sans cesse stimuler. Le Poulpe peut s'offrir un triomphe total devant 120 journalistes et même retransmis en direct à la télévision dans certains pays. Pogba ! Tous les avis de Paul pourraient empocher près de 20 000 euros.
RMC.
Moscato ? Il va te le régler le problème.
Allez Vincent, l'équipe de France repart en campagne, Ligue des Nations puis Coupe du Monde, deux compétitions officielles, je vous le rappelle. Mbappé est appelé à prendre le pouvoir, Benzema, Griezmann seront très importants, tout comme Kanté s'il se débarrasse de ses problèmes physiques. Et quid de Pogba, Vincent? L'un des éléments les plus importants du titre de 2018 traîne sa peine. Alors, selon vous, est-ce qu'on va retrouver le grand Pogba? Vincent règle le problème. Qu'est-ce qu'il y a, Vincent? C'est ce quid qui t'intéresse ou c'est ce quid? C'est ce Pogmentari?
Okay, ouais, non, mais c'est une éternelle question avec lui, avec ce type qui est plein de talent, mais qui n'y a pas eu le travail au bout. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'excuses. Je parle pour les clubs, parce que bien entendu, à partir du moment où tu es champion du monde, tu peux dérouler, quoi. Je veux dire, t'as réussi ta carrière. C'est bête à dire, mais c'est la vérité. Tous les joueurs du monde, dans n'importe quel sport, veulent le titre suprême qui est celui de champion du monde. Lui, ils ont eu la chance, cette génération, ils ont eu la chance parce qu'ils étaient bons, parce qu'ils ont bossé pour l'avoir. Donc, à partir de là, bien sûr que on met un peu le quand on critique Pogba ou un de ces mecs-là, on met un peu le frein à main, bien sûr. Mais quand même, on peut être déçu par sa transparence dans les clubs où il va. Et puis, surtout, les excuses
Vincent,
toujours.
Tu as démarré pied au plancher, mais d'abord, on va donner deux, trois infos d'actualité, parce qu'il se passe pas mal de choses autour de Paul Pogba. Arthur Perrault est avec nous. Salut Arthur.
Bonjour messieurs, dames.
Salut Arthur. Juste avant la conférence de presse de Guy Stéphan pour l'équipe de France, Manchester a officialisé son départ. Il ne sera plus à United l'an prochain. Et quel que soit son choix, il va à un moment falloir se recentrer sur le football, parce qu'il n'y a pas eu que du foot dans le quotidien de Pogba ces derniers temps.
Non, on rappelle qu'il était absent des terrains depuis avril dernier, la faute à une blessure au mollet contractée face à Liverpool, l'issue aussi d'une saison galère pour Paul Pogba, avec comme bilan 20 matchs disputés pour un but et 9 passes décisives. Mais ce qui intrigue le plus dans ce départ, c'est l'avenir du joueur. Deux clubs sont régulièrement cités, le Paris Saint-Germain et surtout la Juventus de Turin. L'équipe italienne attend le feu vert définitif de son ancien milieu de terrain. Et en attendant, eh ben, cette tournée de Ligue des Nations, elle s'apparente à un vrai tournant. Paul Pogba doit absolument se montrer, mais il pourrait encore faire durer le suspense en décidant d'annoncer son choix, écoute bien Vincent, dans un documentaire, son nom, Pogmentary, diffusé à partir du 17 juin prochain sur Prime Video.
C'est fou ça quand même, non ? Pogmentary, c'est la vérité.
Surtout qu'il y a un précédent,
c'est pas une blague, hein.
Il y a un précédent malheureux avec Antoine Griezmann, hein. Ça, c'est, ça s'est mal passé, hein. La fameuse décision de son faux départ de l'Atlético pour le Barça. Ouais, il l'a payé après dans le vestiaire du FC Barcelone un an après. Hein.
Enfin, ce gars fait ça parce que...
Il y a une expérience malheureuse de son copain. Hein.
Ouais, mais voilà, tu vois, c'est ça un peu le problème de Pogba, c'est son gros problème, c'est de se concentrer sur le football. Et c'est vrai qu'alors attention, t'es champion du monde très jeune, à 24-25 ans, ça doit te secouer un peu les neurones quand même. Tu dois, pour rester les pieds sur terre, ça doit être très très compliqué. Hein. Mais bon, la plupart y arrivent, hein, parce que d'abord il y a la passion, il y a le foot, et puis il y a les contrats avec les clubs et tout. Mais lui, c'est toujours la faute de l'entraîneur. 4 entraîneurs, il joue toujours pas. 4 entraîneurs, il a pensé à Manchester. Les mecs ne le font pas jouer parce qu'il ne doit pas fournir. Il est dans une représentation de lui. Est-ce qu'il aurait un peu le boulard? Ça m'étonnerait pas non plus. Il joue avec le feu. Il joue avec le feu. Ça fait 4-5 ans qu'il joue pas en club, qu'il sert à pas grand chose dans un club. Un président de, pour recruter. Je suis président de club, j'ai du mal à le recruter. Hein. J'aurais le cul entre deux chaises, Pierrot. Parce que t'as le joueur qui est brillant en équipe de France, puis t'as le joueur qui traîne sa flemme. Alors, blessé, bien sûr, mais tu peux mettre ça aussi sur le compte aussi d'un manque de sérieux, d'entraînement, tout ça. Je suis très, très, c'est je sais pas s'il fera la prochaine Coupe du Monde. Je sais pas.
Carrément.
Ah, je le sais pas parce que d'après moi, de pas jouer en club, ça te fait baisser le niveau.
Il va changer de club, il va aller dans un club.
Je l'espère. Je l'espère, mais il a souvent changé d'entraîneur. Quand tu changes d'entraîneur, c'est souvent que tu changes de club, hein, quand même. C'est un peu pareil, c'est un peu le même décalage. Parce qu'après, le mec qui s'occupe de la cuisine, c'est pas très grave, quoi. Ou dans le stade dans lequel tu joues, c'est pas très grave. C'est souvent quand même le rapport avec ton entraîneur qui fait que tu y arrives ou pas.
Eric,
bah, écoute, en tout cas, c'est une chose, c'est que le seul finalement, on va mettre de côté sa période à la Juve et où finalement c'est là-bas où il a été révélé et où il a été, il était un soldat. Il y avait Pirlo, il y avait des tauliers autour de, et lui faisait le job. Depuis qu'il est devenu Pogba et champion du monde, on se rend compte que finalement il y a Didier Deschamps qui a réussi à le gérer. Et donc on va continuer à faire confiance à Didier pour le gérer et en tirer le maximum, c'est-à-dire un joueur qui épure son jeu, qui du coup devient beaucoup plus efficace, beaucoup plus collectif, et qui est le parfait pendant finalement de Kanté, qui je crois que de jouer aux côtés de Kanté en plus ça lui fait énormément de bien parce qu'il voit le petit qui se dépouille toujours pour
donc,
l'équipe,
du coup,
toujours
aussi.
Voilà, donc lui aussi il est, tu vois, et qui joue Seb dans l'esprit, ça y fait aussi, voilà. Et donc il y a ce facteur là, donc la confiance à Didier, et puis il y a peut-être son futur choix de club qui peut lui permettre de jouer peut-être dans un environnement un petit peu plus apaisé, c'est-à-dire avec un coach qui parce que quand il fait le choix de revenir à Manchester United, si je me souviens bien, mais je peux me tromper, il fait le choix du club.
Oui.
Il fait pas le choix. Je suis pas sûr que ce soit le coach qui va le chercher en lui disant il faut que tu reviennes et tout. C'est
il
vraiment le choix.
Il se tourne
du...
depuis plusieurs saisons en fait.
Oui, c'est l'histoire d'amour qui a jamais commencé ou qui a mal fini et qui devait se continuer.
Quel que soit le coach, il serait venu à Manchester.
Voilà, c'est ça.
L'histoire.
Donc alors que là, c'est peut-être un coach qui va le récupérer, qui va le faire venir, qui va lui présenter le projet dans lequel il sera un élément essentiel et peut-être que du coup il n'aura pas les soucis qu'il a eu ces derniers temps. Voilà, donc j'ai cet espoir là parce que ce garçon là malgré tout, alors il lui faut un environnement particulier et c'est vrai que en équipe de France, eh ben tu regardes Didier, ben il en a et pourtant il lui a tapé sur le museau quelques fois. Hein,
il a sorti au début de l'Euro.
Non, à la Coupe du Monde, on fait les débats pour savoir s'il va jouer, parce que je crois qu'il le fait pas jouer sur les matchs de préparation ou l'équipe de France, ou alors il joue et ça se passe pas très bien.
Et à l'Euro 2016, il le sort de l'équipe à un moment.
Voilà, donc c'est-à-dire que Didier, bon, mais il sait le gérer, il sait le piquer, donc on va faire confiance au coach, quoi.
Paul Pogba, qui jusqu'ici, je pense, hein, toujours un titulaire dans l'esprit de Didier Deschamps.
Ouais.
Hein.
Et j'adore la fixation de Vincent, qui à chaque débat sur Pogba nous dit que Pogba, il faudrait qu'il arrête de marcher comme Tchèque.
Alors que
comme Tchèque Ilonil, le Tchèque comme dit Vincent.
C'est c'est comme Sanson et Dalila, tu lui coupes les cheveux, Paul Pogba, c'est plus le même, c'est pareil. Hein.
Bah, il sera là, Polo, t'inquiète, pour la Coupe du Monde, il sera là en bon soldat.
Allez, à tout de suite, c'est l'heure d'Apostruf sur RMC.
RMC, le meilleur du Super Moscato Show. RMC, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Le Moscato Show, tous les après-midi, pendant vos vacances sur RMC, ou alors pendant que vous bossez et que c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, et on écoute le Moscato Show pour se détendre. Alors l'été, on a moins le besoin de se détendre, mais on a besoin de rigoler.
Ouais, puis vous faites, il y a beaucoup de gens qui font du sport aussi l'été, Pierrot. Je salue tous les runners qui nous écoutent, tous les gens qui font du sport, qui courent en écoutant le Super Moscato Show, souvent en podcast. Bonne séance de course à pied, il est peut-être 7h du matin pour vous, vous courez à la fraîche, eh ben on est avec vous et vous pouvez podcaster tous les jours le best-of du Super Moscato.
Il vaut mieux parce qu'à 16h au mois d'août, c'est compliqué. Dans quelques minutes, vous aurez le débat sur les franchises sud-africaines en Coupe d'Europe, mais d'abord, c'est l'heure d'Apostruf.
RMC, c'est l'heure d'Apostruf dans le Super Moscato Show.
Céline, elle mange n'importe comment, puis elle dégouline, puis elle vole du lunch, puis même elle vole du sucre dans les hôtels. Je capote! C'est pas ça! Ça n'a jamais été ça!
C'est pas ça! Oui. Claudette Dion, qui défendait sa sœur Céline Dion, mal incarnée selon elle par Valérie Le Mercier dans Aline, le film. Ouais, d'ailleurs, voilà. César de la meilleure actrice, Valérie Le Mercier.
Elle le mérite parce que. Dans cette représentation de Céline Dion, elle était superbe. Pour moi, le plus beau film que j'ai vu, ça a été Marion Cotillard quand elle
la
fait
môme. La Môme. La Môme, Piaf. Ouais. Piaf.
C'était extraordinaire.
Chante Piaf, vas-y.
Chante Piaf.
Je savais qu'il avait envie de chanter du Piaf.
Venez Milou. Avec Serda, il dit.
Il y a beaucoup de bruit. Écoutez le jeune homme.
Alors, des nouvelles d'un ami de Vincent. Michel Drucker, bientôt 80 ans, Vincent. Michel Drucker s'est exprimé dans Le Parisien aujourd'hui en France. Il parle rarement en ce moment. Et attention, déjà, pour tous les gens qui ont leurs habitudes, gros changement. À l'heure de la sieste, Michel déclare : je déménage. Michel Drucker, il nous dit, Vincent, je déménage sur France 3.
Ah.
Donc vivement dimanche,
ça sent mauvais.
Émission historique de la télé française quand même. Oui, sur France 2 depuis plus de 20 ans, 25 ans, eh bien se délocalise sur France 3.
Ça veut dire que l'émission dans 2 ans est
finie. Et attention, alors bonne ou mauvaise nouvelle, nouvel horaire, 13h30, face à Laurent Delahousse et son 13h15 le dimanche qui cartonne plutôt Laurent Delahousse. Donc déjà bonne nouvelle ou pas pour Michel Drucker, France 3.
Les deux cas ça quand même envoie, hein, parce que c'est pas les mecs Delahousse et Drucker qui ont la langue à la poche.
Non, mais
c'est quand même des interviews vérité quand
non,
même.
Non, hein.
Ils rentrent dans la gueule du client.
Le 13h15 c'est le magazine, c'est le magazine, ouais, c'est le reportage, ça marche très bien ça. Très, donc très bien. Dur pour Michel la concurrence.
Dur non, parce que je pense que oui, c'est bien sûr que c'est dur parce que Michel Drucker, il a tout comme son public. Il a son public d'anciens.
Bien sûr.
Tu sais, ils font pas n'importe quoi. Après, ça sent quand même le truc de Bouvard quand il a commencé à faire une heure derrière une grosse tête et qu'il a explosé.
Il parle de France 3. France 3, qui est une chaîne à la base région, ouais, qui parle beaucoup aux régions. Il dit : je suis un enfant de la basse Normandie, accueilli en Provence. Je me suis senti toujours plus provincial que parisien.
Oui, ça se voit.
En lien direct avec la France profonde. Dans ce milieu, ça aide à garder les pieds sur terre, ce que dit Michel Drucker. Et il dit : il y aura plus de place pour l'humour dans mon émission. Donc, Vincent, si tu.
Non, mais il le pense vraiment, Saint-Michel.
Oui, mais après, que tu le veuilles ou non, quand t'es Michel Drucker, t'as fait 50 ans de télé, tu n'as plus les pieds sur terre et c'est pas non, grave, on veut pas.
On t'en veut pas, Michel Drucker.
Absolument pas proche du peuple, Michel Drucker, c'est n'importe quoi.
Michel Drucker dit il y aura de la place pour plus d'humoristes et d'humour dans mon émission. Frédéric Pouillet, qui me dit à l'instant, demande à Vincent s'il a toujours ses perruques pour voir le ressortir chez Michel Drucker.
Je me souviens de rien. Ça, c'est quand une fois que tu veux faire croquer un ami.
Bon, Michel Drucker, qu'on adore. Moi, je l'adore parce qu'un jour, il est passé dans les locaux d'RMC pour regarder un match de foot véridique parce qu'il n'avait pas RMC Sport.
Exact.
On avait profité pour l'interroger sur le Paris Saint-Germain et Michel nous avait laissé un joli cadeau pour Apostruf et pour Journal Moyen. Merci, Michel.
Les joueurs de Turin ont été magnifiques. Mbappé, là, Verratti, là, tu la baraque et puis Marquitos.
Et bien sûr,
J'avais oublié celle-là.
Doritos.
Il est vraiment sympa, par contre.
Je sais pas.
Il est vraiment sympa.
Non, mais lui,
Michel.
J'ai jamais vu un mec qui est gentil, Michel Drucker.
Il est gentil. Moi, je suis passé une fois, j'avais été invité par Patrick Sébastien dans l'émission l'après-midi. Il m'a parlé comme s'il m'avait connu depuis.
Il y a des faux gentils.
Jamais rencontré.
Et on en connaît. Mais lui, vraiment gentil.
Michel, il est sympa. Il t'a parlé parce qu'en vérité, il s'est parlé à lui-même.
Oui.
Il a même pas vu que c'est un
vrai.
Patrick, quand il te parle et qu'il regarde dans les yeux, là par contre, c'est pas comme Briator, il sait qui tu es.
Alors l'autre fois au Murat, Pierrot, l'autre fois au Murat, c'est vieux, mais ça le parlait, écoute-moi, il savait pas qui lui parlait, Vincent.
Non, c'est vrai. Patrick, c'est un ami, tu vois, il continue, Patrick est toujours à droite, à gauche. C'est un amoureux de la scène. Il est toujours sur scène, au théâtre, tout ça.
Sans transition. Vous attendiez l'apparition du nouvel épisode depuis de longues semaines. On a cru que, comme le bureau des légendes, c'était terminé. Mais ils sont de retour. Les Moscachiens sont de retour.
Les Kardashians sont là.
Ah, parce que la façon de Kim Kardashian, Vincent régulièrement publie des vidéos sur sa page Facebook. Vincent partage son quotidien avec ses fans, puisque le quotidien de Vincent, il est intéressant. Donc, alors, vidéo publiée dimanche. Dimanche, 15h.
Que s'est-il passé ?
Alors, mais c'est très simple, il n'y a rien de grave, mais moi j'adore ces moments de vie.
C'est pas du direct.
Non, ce sont des tranches de vie. Vincent est au bar, au comptoir, assis à une table, il y a son ami Franck Tiozzo. Et écoutez, on entend des copains qui discutent, et Vincent fait du shadow, Pierrot, je sais que tu adores ça, il boxe au comptoir, pouf, il a envie de se battre.
Je vais te
prouver que c'est pas vieux, puisque tu vas tester auprès de tes potes une vanne que tu as faite dans le Moscato Show la semaine dernière. Tu sais, la blague des 11 secondes, on va voir si ça marche auprès de tes copains.
Non, mais j'ai toujours dit ça.
T'as dit, je viens de dire à la radio.
Un jour,
on écoute.
Et Vincent, il pense que les toilettes sont aussi en plein air.
C'est vrai ?
Oui, bon. Mais même si c'est à 3 mètres de la dernière table, hein, c'est pas grave.
Tu te rappelles quand Franck Tiozzo était arrivé, nous rejoignait en barque, nous avait rejoint, on est rentré au Chalet des Îles, dans l'état où il était arrivé. C'était monstrueux.
C'est là que Pierrot avait posé des questions.
Oui, Pierrot.
Il avait demandé qu'est-ce que tu fais comme métier ?
C'est dans
c'est le Festival de Cannes. Qui est la star du Festival de Cannes? Forcément, il est arrivé en hélicoptère. C'est notre ami Tom. J'allais dire Tom Gunn, Tom Cruise. Tom Cruise, 60 ans. Alors, toujours dans le Parisien aujourd'hui en France, dossier sur les secrets de la jeunesse éternelle de Tom. Alors, c'est réel, hein. Il y a un site médical spécialisé qui a eu une théorie, site spécialisé dans les embellissements esthétiques.
Ah oui, le Botox. Hein.
Ce site croit savoir, alors non, que son secret proviendrait de l'application quotidienne d'un geisha facial. C'est un soin japonais miraculeux à base d'excréments d'oiseaux permettrant de restreindre le vieillissement des cellules.
Qui s'assoit sur ton
poids. Parce que le Parisien explique, dit, ça reste à prouver.
Mais oui, c'est au Japon, ils le font. C'est japonaise, elle écarte le joufflu, elle s'assoit sur ton visage. Après ça.
Non, mais excréments d'oiseaux, Vincent, pour le visage.
Mais si tu manges que des graines.
Aïe, c'est affreux.
Mais c'est vrai.
Plus précisément, Tom Cruise, 60 ans, paraît beaucoup plus jeune puisqu'il mange beaucoup de légumes bio.
C'est un bionique.
Et qu'il passe beaucoup de temps à la salle de gym. Il
s'entraîne, tu sais qu'il s'entraîne comme un homme. Et ça, il nous l'avait dit. Comment il s'appelle?
Le cascadeur qui était venu nous voir.
Il a un visage un peu marqué maintenant.
Et puis en plus, avec ce qui lui est arrivé, à l'autre, elle est partie.
Qui?
je te le dis pas parce qu'on a pas le droit d'antenne.
Allez, le Super Moscato Show continue. Les franchises sud-africaines en Coupe d'Europe de rugby. Christophe Galtier, est-ce un bon choix pour le PSG? Et y a-t-il un sujet Griezmann en équipe de France?
Eric Dzimeko nous a dit non, il n'y a pas de sujet, toujours mais, pas. C'est pas le moment.
Mais la question continue d'être posée.
Et ça nous a fait débattre.
Et on va réécouter ce débat du 7 juin qui est totalement d'actualité. A tout de suite.
RMC, le meilleur du Super Moscato Show.